Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Canal Academy Monsieur Emmanuel Hogg, président de l'agence France Presse depuis le 15 avril 2010, après avoir présidé pendant 9 ans l'Institut national de l'audiovisuel, et qui est aussi l'auteur d'un essai très remarqué intitulé « Mémoire, année zéro », récemment publié aux éditions du Seuil. Emmanuel Hogg, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Dans cet ouvrage, vous posez la question de la mémoire collective face au risque de saturation à l'heure de la société de l'information. Vous émettez un certain nombre de préconisations pour une politique mémorielle forte et moderne. Aussi, j'aimerais, avant d'aborder cet ouvrage, retracer votre parcours au fond de l'ENA à l'INA, si on peut dire. Vous êtes un saltimbanque et aussi un géomètre, comme on disait autrefois jadis à l'ORTF. Vous avez un parcours tout à fait intéressant. Vous êtes un homme de culture, un homme de mémoire. Vos parents étaient deux conservateurs des musées nationaux, Michel Hogg et Simone Hogg. Votre mère était notamment donc conservateur du château de Versailles. Vous avez donc un lourd passé patrimonial, si on peut dire, et qui vous prédisposait sans doute à présider l'ENA. Ancien élève de l'ENA, vous avez, au cours de votre stage, je crois en 1986, créé un festival de poésie dans le Haut-Allier, en Auvergne. Donc la poésie, puis je crois le théâtre. Pouvez-vous rapidement nous retracer au fond de l'ENA à l'INA, ce parcours d'un artiste de la mémoire?
J'ai eu la chance effectivement de naître dans un milieu, comme on le dit, culturellement très favorisé et très riche, puisque mes parents étaient conservateurs de musées dans des disciplines très différentes, parce que ma mère était plutôt autour du jardin et de la sculpture au XVIIe siècle et mon père dans la peinture du la deuxième moitié du XIXe et du XXe siècle. Très vite, j'ai, en même temps que le chemin de l'école, j'ai connu le chemin des musées. Et puis, c'est après, à travers mes études supérieures, je suis rentré à l'École nationale d'administration et à sa sortie, de manière un tout petit peu prédestinée, je vais reprendre votre expression de géomètre et de saltimbanque, j'ai décidé de m'occuper du budget du ministère de la Culture. Alors, c'était à la culture, mais c'était le budget. Et je pensais que c'était très important de pouvoir être tout de suite dans cette double dimension, à la fois être dans une attention particulière aux choses de l'esprit, aux choses de l'art, aux choses de la connaissance, mais d'y apporter une certaine rigueur, une certaine organisation. Donc c'est un peu dans ces deux domaines-là que j'ai continué à m'accomplir. J'ai administré le théâtre de l'Odéon, théâtre de l'Europe, pendant 5 ans, une grande période de très fort apprentissage, parce qu'au théâtre, on apprend beaucoup de choses, mais aussi on apprend à décider vite, parce que le théâtre, c'est du direct, et les décisions qui ne sont pas prises avant le lever de rideau ne sont plus à prendre. Donc ça, c'était une très bonne école d'exécution et que je recommande à beaucoup de gens. Une fois qu'on est passé par le théâtre, on peut affronter beaucoup d'autres situations. Deuxième grande fonction opérationnelle, c'est celle de président de l'Institut national de l'audiovisuel, où j'ai été nommé en 2001. J'étais à l'époque au cabinet de Laurent Fabius à Bercy. Je ne m'attendais pas tellement à cette nomination. Elle s'est faite un peu rapidement parce que mon prédécesseur, Francis Beck, avait été nommé à d'autres fonctions. Et puis, je suis arrivé à l'INA au moment du lancement du grand chantier de la numérisation. La mémoire audiovisuelle, c'est une mémoire, c'est un patrimoine qui est plus fragile que la pierre ou que le papier, et qu'il fallait très vite numériser. Numériser pour le sauvegarder, puis numériser pour le faire partager.
Alors effectivement, à l'INA, vous avez, je crois, recentré les activités de l'Institut sur ses archives audiovisuelles, principalement, et vous avez donc mis en place un plan très ambitieux de sauvegarde par la numérisation. Et vous avez, en créant le site internet ina.fr, pu mettre ainsi à la disposition du grand public une grande partie des archives radiophoniques et télévisuelles, et ce site connaît un succès considérable.
Oui, parce que garder ou sauvegarder pour le plaisir de conserver n'a pas de sens. La force de ces archives, la force de cette mémoire, la force des collections de l'INA, c'est leur capacité à rencontrer un public toujours différent, nouveau. Et l'histoire de la télévision et la télévision sont des médias maintenant qui ont une dimension historique. Ils ne sont pas simplement des médias du présent. C'est aussi des médias qui racontent par leurs archives une histoire. Et c'était essentiel que de le mettre à disposition du plus grand nombre, avec effectivement le succès que vous rappelez, et qui est un succès, je le dis souvent, un peu unique au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre d'archives de taille équivalente, comme celui de la BBC ou CBS ou de la RAI, qui ont fait d'abord autant d'efforts que nous sur le terrain de la numérisation, mais aussi sur la mise à disposition du grand public. Dans un contexte où Internet est toujours un peu discuté, parfois vu comme le diable, mais là, incontestablement, il y a un effort de démocratisation d'accès au savoir qui était conduit par les équipes de l'INA.
L'INA est, je crois, aussi en charge du dépôt légal en matière d'Internet, et pouvez-vous nous en parler ? Vous avez aussi, alors, autre activité de l'INA, créé un centre de formation, une école qui est l'INASUP. Afin que nos auditeurs donc, connaissent mieux ces différentes activités de l'INA, pouvez-vous nous dresser un rapide panorama ?
D'abord, pour mieux les connaître, je les invite à aller sur le site de l'INA, sur lequel ces activités sont très détaillées. Alors, il y a effectivement l'INA, c'est d'abord des collections, et des collections de plus en plus singulières et originales. Et alors, l'INA collecte la radio, collecte la télévision et collecte maintenant, en liaison avec la Bibliothèque nationale de France, Internet. Scientifiquement, on ne peut pas contester l'idée qu'Internet, maintenant, est une source documentaire et une source de savoir. Et il sera très difficile de raconter dans 50 ans ou 100 ans l'histoire actuelle de la France sans avoir accès à cette ressource documentaire. On sait que, par exemple, l'élection présidentielle de 2012 se jouera beaucoup sur Internet, et si on n'en collecte pas la mémoire, collecter les sites, pas simplement d'ailleurs les sites de politique, mais aussi tous les sites d'information, les sites de vidéos en ligne, de débats publics, de blogs, tout ça constitue une ressource qui n'est aujourd'hui trouvable que sur Internet et originale à Internet. Donc il faut le collecter, ça pose des problèmes techniques, pratiques, des questions de restitution, mais auxquelles les équipes de l'INA et de la BNF se sont attelées. Et la collecte est aujourd'hui commencée. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de pays dans le monde qui ont adopté des législations à peu près comparables et qui considèrent que maintenant Internet est un espace qui mérite d'être approprié par les politiques publiques de la mémoire. Et puis, vous l'évoquez, dans l'histoire de l'INA, c'est une entreprise qui est née en 1974, de la fin de l'ORTF, et qui avait dans ses missions un peu hétérogènes, notamment la formation. Il se trouve qu'avec les ans, les missions sont devenues moins hétérogènes, il y a eu un effort de cohérence qui a été fait, et l'analyse que nous faisons à l'INA, c'est que dans ce secteur qu'on appelle les médias, le numérique, l'audiovisuel, il manque une grande école de référence. Il y a toute une série d'enseignements formidables qui sont dispensés par l'université française, mais il manque une grande école de référence. Et cette ambition que porte INASUP, qui d'ailleurs pourrait trouver sa place dans le cadre du Grand Paris. Nous délivrons déjà des masters, nous sommes très actifs dans ce domaine.
Vous êtes aussi président de la FIAT, qui est la Fédération internationale des archives de télévision.
Je l'ai été.
Et président de la COPEAM.
Ah, ça, je le suis toujours.
Vous l'êtes toujours. Et la 17e conférence de la COPEAM se tiendra prochainement à Paris, je crois pour la première fois, du 8 au 11 avril.
La COPEAM, c'est l'acronyme pour la Conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen. C'est l'association la plus représentative des médias en Méditerranée. C'est 25 pays, 130 entreprises publiques ou privées. Tous les grands radiodiffuseurs et télédiffuseurs sont présents dans la COPEAM. Et notre souci, il y a un peu un effet de miroir avec l'Union pour la Méditerranée, mais notre souci, c'est de vraiment faire émerger un paysage audiovisuel méditerranéen qui n'existe pas, qui est encore aujourd'hui dans une situation assez anarchique. Le Sud regarde le Nord regarde très peu le Sud, et le Sud regarde non seulement le Nord, mais aussi beaucoup les chaînes du Moyen-Orient, posant ainsi des problèmes politiques ou des problèmes culturels. Donc toute une série d'acteurs, pour des raisons diverses, mais finalement qui convergent, souhaitent voir un paysage audiovisuel méditerranéen, conforté par des normes partagées, et éventuellement, c'est le projet que nous portons, la création d'une chaîne de la Méditerranée. ce que les Allemands et les Français ont fait en créant Arte, pourquoi nous, collectivement, nous ne pourrions pas arriver à faire un grand diffuseur sur l'ensemble de la zone avec une vocation culturelle et sociale forte.
Emmanuel Hogg, quelle est la signification du titre de votre ouvrage « Mémoire année zéro » et pourquoi avoir écrit ce livre ? Je pense qu'une série de raisons transparaissent au travers de ce que vous nous avez dit sur votre propre parcours et sur le rôle de l'INA. Avez-vous voulu tirer la sonnette d'alarme puisque vous nous dites que, alors la France connaît, enfin la France et non seulement la France, l'Europe, une crise économique très grave. Vous nous dites que cette crise est aussi une crise culturelle, une crise qui touche notre mémoire nationale. Donc quelles sont les causes et les symptômes de cette crise ? Quelle est la gravité de ce mal ?
Écoutez, je pense que c'est un mal assez profond puisque la France est le premier consommateur de neuroleptiques et de tranquillisants et d'antidépresseurs. Donc, c'est pas le symptôme d'une situation individuelle qui va mal. C'est aussi le syndrome d'un collectif qui a du mal à se réaliser ou à se trouver un avenir. Les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre sont simples. La première, c'est que d'abord, j'aime bien réfléchir sur ce que je fais, et pas simplement être dans l'action, mais aussi être dans la réflexion. J'avais, grâce à Pierre Nora, fait un article dans la revue Le Débat sur l'oubli à l'ère du numérique, et que c'est un peu le squelette de cet article qui a donné la colonne vertébrale à ce livre. Et puis, il me semblait que nous étions, à travers le numérique, en train de changer de système de pensée autour de la mémoire. La mémoire, c'est ce qu'on conservait, ce que le temps laissait passer, et laissait passer à travers une succession de pertes. Donc c'était le résultat des pertes qui donnait de la mémoire. Il se trouve que nous sommes dans une situation, grâce au numérique, où entre l'original et la copie, et la capacité de faire mémoire de tout, et de garder tout, dans des conditions discutables et des conditions d'usage qui mériteraient d'être explorées, mais en tous les cas, incontestablement, l'idée de garder des traces se pose dans des termes économiques, intellectuels et techniques d'une autre nature et d'une tellement autre nature qu'elle change complètement les données du problème. Et nous avons deux mémoires qui aujourd'hui cohabitent. On a la mémoire classique, la mémoire des livres, des histoires, des pays, des institutions publiques qui, elle, connaît la crise d'une représentation collective que nous ressentons tous. Et puis cette nouvelle mémoire, cette mémoire qui se saisit de tout et pour toujours et qui fait que, notamment à travers Internet, le passé et le présent, voire l'avenir, se confondent en permanence et que plus rien ne peut être oublié. Et c'est la rencontre de ces deux mémoires, cette mémoire moderne et nouvelle et cette mémoire classique, qui chacune porte en elle des difficultés qui créent un peu ce choc actuel.
Je vous propose de marquer une courte pause et nous reprendrons dans quelques minutes cette émission sur un ouvrage d'Emmanuel Hogg, Mémoire année zéro.
Canal Académie vous propose une série de 4 émissions consacrées à la philosophe française Simone Weil, dont on fête en 2009 le centenaire de sa naissance. Laure Adler, Sylvie Courtine Denamy, Sylvie Weil et Bertrand Saint-Cernin nous livrent les fragments de la vie intense de Simone Weil, femme de conviction. Quant à la cinéaste Emanuela Piovano et la comédienne Lara Guirao, elles nous livrent leurs impressions sur le tournage du film consacré à la vie de la philosophe. Ces 4 émissions sont disponibles en libre téléchargement sur le site de Canal Académie.
Nous sommes dans le studio de Canal Académie. Nous recevons aujourd'hui M. Emmanuel Hogg, président de l'Institut National de l'Audiovisuel, qui évoque pour nous un essai très remarqué, publié au Seuil récemment, « Mémoire année zéro ». Emmanuel Hogg, au travers de cet essai, vous évoquez les risques de ce que vous appelez une bulle mémorielle, risque d'explosion ou d'implosion, ou les deux. Et vous nous dites aussi que trop de mémoire tue la mémoire. Bon, au fond, n'est-ce pas paradoxal ? Parce qu'on pourrait penser que Internet est une chance pour la mémoire collective, une chance pour l'histoire, une chance pour la culture. Vous évoquez menaces, risques. Pourquoi ?
On était autrefois dans un système qui était assez bien cadencé entre les souvenirs qui étaient très personnels, l'histoire de l'autre côté qui était tenue par l'université, puis entre les souvenirs et l'histoire, il y avait la mémoire qui avait une fonction plus communautaire, plus collective. L'arrivée du numérique écrase, dilate la mémoire au détriment des souvenirs d'un côté, où chacun veut considérer que son souvenir personnel peut faire mémoire collective, et c'est les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, l'histoire rentre en crise à travers notamment tout le système de l'académie et de l'université. Et les universitaires sont de plus en plus face à des revendications mémorielles. On arrive même à faire des lois mémorielles en France. Donc on voit bien que cette dilatation de l'espace mémoriel par rapport à l'espace historique et à l'espace des souvenirs est un élément identifiant de notre société. Alors il est poussé par le numérique qui fait mémoire de tout et qui transforme nos sociétés, enfin les plonge dans un éternel présent. C'est-à-dire que la notion d'histoire et la séquence entre le passé, le présent et l'avenir est très largement perturbée par le fait qu'on a désormais une mémoire à côté de nous qui se rappelle à nous en permanence au risque de nous faire exister dans un présent un peu permanent et perpétuel. Et ce qui est en jeu, c'est la capacité de produire du collectif et de produire du sentiment collectif, certains diront du sentiment national, hein, mais dans une logique de progrès et dans une logique d'avenir. On sort d'un cycle où pendant 150 ans, on a cru, pas toujours pour de bonnes raisons, mais enfin on a cru que demain irait mieux qu'aujourd'hui. Et là, avec l'inflation mémorielle, la bulle mémorielle et la capacité du numérique à considérer que finalement, hier, c'était beaucoup mieux que demain. Et j'allais dire, de peur d'affronter l'avenir, de prendre des risques, de considérer qu'il y a de l'aventure, que l'avenir n'est pas écrit et qu'il appartient aux hommes de l'écrire. Face à ces valeurs-là, qui sont finalement des valeurs en régression, on se complaît dans une forme de nostalgie sympathique, mais qui fait que pendant ce temps-là, d'autres peuples dans le monde continuent à penser que demain est meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est un véritable point dur de la période dans laquelle nous sommes.
Oui, au travers de votre essai, vous évoquez ce culte du passé. Vous dites que la France a la religion de la mémoire et que le culte de la mémoire a, depuis la Révolution française, remplacé la religion. Pourquoi, au fond, ce culte du passé ? Est-ce propre à la France ? Est-ce partagé en Europe ? Et comment ça s'exprime, j'imagine, par toutes les commémorations que nous connaissons toutes les semaines. Mais...
Il y a une inflation en matière de commémoration. C'est-à-dire que je discutais encore récemment avec un élu qui me disait que sur son emploi du temps d'une semaine ou d'un week-end classique d'élu dans sa circonscription, il y a 20 ans, il avait une commémoration tous les mois. Et ce même élu me disait qu'aujourd'hui, il avait à peu près 2 à 3 commémorations par week-end. C'est-à-dire qu'on est toujours, et que la commémoration est une manière de scander le présent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous les jours, toutes les semaines, dans le 10e anniversaire de ceci, le 25e anniversaire de cela, le 30e de ceci ou la première année. Donc c'est une manière d'organiser, de rythmer le temps par rapport au passé et non plus par rapport à l'avenir. Il n'est pas en soi, et au contraire, d'avoir un rapport critique, intelligent, démocratique, raisonné, par rapport à l'histoire. Au contraire, bien évidemment, l'histoire est le pilier essentiel sur lequel on construit quelque chose. Mais c'est bien cette notion de construction qui est en crise. C'est pas le retournement sur l'histoire un peu à satiété. C'est celui-là qui est discutable. Ceux qui nous ont inventé notre histoire le faisaient par rapport à l'idée d'un avenir. Aujourd'hui, on a perdu l'avenir, on n'a plus qu'une forme de complaisance dans le passé, ce qui est assez différent.
Vous dénoncez aussi l'impasse identitaire. Le débat sur l'identité nationale vient de s'achever dans notre pays. Vous en faites une analyse critique de cette notion en disant que cette potion miracle, au fond, pourrait n'être qu'un dangereux poison. Donc, ce n'est pas la solution pour vous.
Qu'on se pose et que les difficultés actuelles de nos sociétés renvoient à des questions identitaires de qui je suis, où nous sommes, où nous souhaitons aller, c'est une chose. Les termes du débat dans lequel les choses se sont inscrites, j'avais écrit ce livre avant que le débat national ne soit posé, donc... font que les réponses sont aussi peu claires que les questions et que finalement, il y a un effet de boucle sur lui-même et ça ne produit pas de l'avenir.
Vous évoquez Internet. Comment faire d'Internet un acteur de notre histoire ? Comment organiser, au fond, pour le futur, cette nouvelle mémoire ? Et que faut-il oublier ? Parce que vous revendiquez aussi un droit à l'oubli.
Sur Internet, Internet n'est comme la langue d'Ésope, c'est-à-dire que c'est ni bien ni mauvais. C'est ce que nous en ferons. Aujourd'hui, c'est un système où l'information est très largement envoyée en vrac, très peu hiérarchisée, avec des dispositifs de reconnaissance qui sont très pauvres. Aujourd'hui, c'est le phénomène du moteur de recherche qui produit des listes. Aujourd'hui, on n'a pas le même dispositif de référence que nous pouvons avoir dans des bibliothèques ou même dans une ville où on peut distinguer une boucherie d'un supermarché ou d'une bibliothèque, voire d'une librairie. Aujourd'hui, sur Internet, tous ces dispositifs de reconnaissance, de repérage, sont aujourd'hui très pauvres et restent très largement à construire. L'autre réflexion qu'on peut avoir, c'est que quand vous cherchez sur Internet, on vous produit une liste. Cette liste, c'est la non-hiérarchie. La hiérarchie dans la liste est liée à d'autres raisons que la hiérarchie du savoir. Or, depuis des centaines et des centaines d'années, et Canal Academy en est un exemple, c'est-à-dire que c'est la production du savoir passe par sa hiérarchisation. Tout ne se vaut pas, tout n'est pas égal. Toutes les informations ne se valent pas entre elles. Et donc, ce qu'il faut absolument arriver à gagner sur Internet, et ça, c'est un travail de réflexion, d'invention et de mobilisation des sociétés humaines dans lesquelles nous vivons, c'est d'avoir un espace de représentation qui est à la fois d'une extrême richesse, je reviendrai à la question de l'oubli, mais qui doit arriver à produire des systèmes de repérage intelligents. Or, aujourd'hui, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est important et ce qui n'est pas important, entre ce qui est utile et ce qui est futile, les systèmes de repérage sont très faibles.
Donc, il n'y a pas de hiérarchisation, pas de sélection, et le risque, c'est de tout conserver, au fond.
Alors, l'autre élément, c'est le tout, c'est la capacité à faire revenir une information qui a pu être produite il y a 20 ans, il y a 6 mois ou il y a une heure, et lui donner une présence réelle, permanente. Alors, à la fois, il y a quelque chose d'absolument formidable et d'exceptionnel, et en même temps, se pose la question du droit à l'oubli. C'est-à-dire que notre histoire individuelle et notre histoire des peuples est fondée sur la capacité à oublier. Ce n'est pas à nier l'histoire, ce n'est pas du négationnisme, c'est de pouvoir mettre de côté un certain nombre de faits, car s'ils étaient répétés à l'infini, ils créent soit du désordre, soit du conflit, soit même de la haine. Et on a connu des exemples terribles dans nos sociétés. Et donc, si on crée un espace où tout peut être rappelé, si mon passé ou votre passé peut nous être renvoyé à la figure en permanence, ça sous-tend qu'on est toujours des gens qui font toujours des choses bien, ou qu'on fait des choses dans le cadre de la loi, mais on peut même être dans le cadre de la loi et pas souhaiter voir sa vie exposée ou sa vie tout simplement rappelée. Et que là, on a un espace qui, de ce point de vue-là, est très discutable. D'autant plus que ces données sont tenues par des sociétés qui font du profit dessus, puisque derrière tout un système de publicité adressé qui fonctionne. Et jamais dans l'histoire humaine, nous avons accepté de confier autant d'intimité à des opérateurs privés. Donc la question du droit à l'oubli, l'ère du numérique, la possibilité de soi-même reprendre la main sur les informations qui nous concernent est un élément clé, parce que Internet, c'est un espace public, et si les internautes ne sont considérés que comme des consommateurs ou comme des chercheurs d'informations, mais jamais comme des citoyens bénéficiant de l'habeas corpus, on crée un espace un peu de barbarie dans le monde virtuel, alors que dans le monde réel, on reste très régulé, très protégé. Donc on crée un divorce entre les deux.
Mais est-il possible de domestiquer Internet, de le civiliser, selon les termes que vous employez dans votre ouvrage ? Est-ce qu'une régulation est possible ? Cette régulation est-elle à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Europe, au plan national ? Que préconisez-vous ?
On peut réguler Internet, on peut le penser. Il faut une des conditions préalables, qui n'est pas une condition juridique ou technologique, mais c'est de se le représenter. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un vrai enjeu qui est la représentation d'Internet. Comme hier, les cartographes cartographiaient la Méditerranée, et c'est à partir de la cartographie des pays qu'on a pu inventer l'histoire. Enfin, la géographie et l'histoire, on le sait, sont très liés. Tant qu'on n'aura pas cartographié Internet et qu'on ne se soit pas donné une représentation d'Internet, toute réflexion sera difficile. Mais en même temps, Internet, c'est des sociétés commerciales cotées en bourse, c'est des salles de machines, c'est des équipes qui sont soumises à des législations sociales. Ce n'est pas une bulle noire, Internet. Ce n'est pas un terrain incognita. Donc, et d'ailleurs, on le voit bien entre les débats avec Google, soit pour des raisons liées à l'exception culturelle française par rapport au projet de la Bibliothèque nationale de France, soit Google dans d'autres partie du monde en discussion avec les autorités chinoises, on voit que par définition, on peut réguler. On peut réguler les moteurs de recherche, on peut discuter avec eux, on peut parler. Je crois que la seule chose, c'est qu'il faut mettre tout ça sur le terrain du raisonnable et de la discussion, c'est-à-dire de ne pas fantasmer cet outil, parce que le fantasme crée des positions paradoxales, soit d'être dans l'excès de vertu en disant c'est génial, c'est la démocratie, c'est l'accès de tous au savoir, soit d'être considéré que c'est le nouveau monstre froid qui va nous conduire vers la régression. Non, mais c'est commencer à raisonner.
Donc notre mémoire collective peut avoir un avenir.
Oui, à l'heure d'Internet, si on fait cet effort de penser, c'est-à-dire si on considère que le temps moyen, le temps long sont des vertus essentielles à la démocratie, qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans l'instant, dans la rapidité, et que le temps de la réflexion est un temps absolument nécessaire.
Emmanuel Hogue, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous espérons vous inviter prochainement à nouveau dans le studio de Canal Académie.
Merci à vous.